Vous êtes sur RTL.
Tous. C'est effectivement parti pour 2 heures d'info RTL Soir avec à la une menace sur les résultats du bac. Les enseignants correcteurs ont normalement jusqu'à ce soir pour donner leurs notes au centre d'examen. Mais une partie de ces profs a décidé de les garder sous le coude. Plus de 120 000 copies sur 4 millions seraient retenues. C'est peu, mais suffisant pour perturber l'annonce des résultats prévus vendredi. L'idée des profs n'est pas de saborder le MAC, mais d'inciter le ministre à rouvrir des négociations sur la réforme du lycée et du bac. Alors, quelles conséquences sur ces résultats et sur les euros du rattrapage de la semaine prochaine? On fait le point de la situation dans un instant. Et puis, à 19h15, on en débattra dans On refait le monde. RTL Soir, première édition, c'est avec vous Christelle Rebière, bonsoir.
Bonsoir, et décidément ce bac 2019 est chahuté avec cette affaire de fuite sur les sujets de maths. 12 candidats sont encore en garde à vue, vous entendrez le témoignage du père d'un des jeunes. Une plainte collective de 85 personnes contre les violences policières à Nantes. Pendant le soir de la fête de la musique, un jeune homme est toujours porté disparu.
Et justement, première invitée d'RTL Soir dans 20 minutes, maître Marianne Rostand, l'avocate des associations qui a déposé cette plainte collective.
Une condamnation allégée en appel contre cet aide-soignant qui avait violenté une pensionnaire de 98 ans dans un EHPAD d'Arcueil dans le Val-de-Marne. 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. À suivre également le portrait du nouveau président du Parlement européen, un ancien présentateur du JT italien. Le défilé du 14 juillet, c'était top de chez top, c'est ce que disait Donald Trump en 2017 à Paris. Demain à Washington, il va s'offrir son défilé à la française. La Bourse de Paris termine ce soir en hausse de 0,75% à 5619 points. Les courses en gain, il fallait jouer le 3, le 16, le 5, le 7 et le 14.
À la fin du journal de Christelle, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. Après un jugement qui a accordé à un ouvrier la paternité de la découverte d'un trésor alors qu'ils étaient 3 sur le chantier, eh bien on verra quelle est la règle. À 18h25, les coulisses de l'actualité, au moment où la moitié des opérateurs de trottinettes électriques se retirent de Paris en raison des coûts de maintenance et du vandalisme, eh bien on vous emmène en coulisses avec les galériens de la trottinette, pas ceux qui roulent avec, mais ceux invisibles qui les rechargent et les entretiennent. À 18h30, ce sera Benjamin Sportouche, l'édito politique, ce soir l'exception Corse. Et à 18h35, nous recevrons la jeune navigatrice Clarisse Kremer. En octobre, elle se lancera dans la Transat en double avec Armel Lecléache, le vainqueur du Vendée Globe. Et pourtant, il y a encore peu de temps, cette brillante élève d'HEC n'avait jamais navigué en haute mer. La météo, Peggy Broche, demain, une journée estivale, chaude.
Exactement, Vincent. On prévoit entre 30 et 35 degrés sur la moitié sud, de 24 à 30 degrés au nord. Ça sera quand même un peu moins chaud en bord de Manche, entre 20 et 24. Côté ciel, on va profiter d'une très belle journée ensoleillée. Bon, il faudra juste attendre la dissipation des nuages bas en matinée sur la façade atlantique et le sud-ouest. Et puis ensuite, le soleil va s'imposer. Puis on a toujours ce petit risque d'averse en montagne l'après-midi, avec un coup de tonnerre possible en fin de journée sur les Pyrénées et les Alpes.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le bac 2019, entre fraude et suspense à l'approche des résultats.
On commence par les fuites sur les sujets de maths des sections S, E, S et L. 12 candidats sont toujours en garde à vue à Paris et Marseille pour avoir consulté et fait circuler les sujets sur le réseau WhatsApp et par SMS. Écoutez le père d'un des jeunes interrogé par la police. Guy raconte l'arrestation de son fils. C'est un document RTL.
Mon fils a été interpellé à 6h du matin. C'est vrai que c'est difficile de voir des policiers arriver à l'appartement et on a l'impression qu'on a un fils qui est un voyou, un malfrat. Et donc c'est vrai que c'est assez choquant. Je ne peux pas incriminer la police parce que la police, on lui demande d'enquêter, donc elle enquête. Maintenant, aujourd'hui, je peux juste dire qu'en définitive, quand n'importe quelle personne aujourd'hui va sur Internet et qu'il voit des corrigés potentiels d'un sujet du bac, quelle est la personne qui ne va pas les regarder? Le sujet vient à vous. Quel est l'enfant qui aujourd'hui, au lycée, le sujet s'est corrigé et qui tourne la tête? C'est difficile. Vous allez dans n'importe quel lycée de France et de Navarre et on va vous dire, tiens, à mon avis, c'est ça qui va tomber, j'ai une fuite. Et alors? Ça fait de vous un tricheur? Mon fils est un bon élève, quoi, dans un lycée réputé de Paris. Je trouve que c'est un petit peu disproportionné. On aurait pu les convoquer, voilà, pour des renseignements, on veut savoir, on va voir les choses. Et le plus important, c'est l'arbre qui cache la forêt. D'où proviennent les fuites? Et en fait, l'éducation nationale, elle a à s'en prendre qu'à elle-même. Si au sein de ses équipes, il y a des gens qui donnent des fuites.
Voilà, des propos recueillis par Alice Moreno pour RTL.
Venons-en maintenant aux résultats du bac. La grève de certains correcteurs qui dénoncent la réforme du lycée et du bac concerne environ 2,5% des copies, mais ça suffit à bloquer le système. Marie Guerrier, soyons clairs, vendredi, les 740 000 candidats auront-ils tous leurs résultats ?
Non, pas en l'état actuel des choses. Les correcteurs grévistes restent fermes sur leur position. Ils n'ont pas remonté les notes et ne remettront pas leurs copies demain jeudi au jury de délibération. Donc, pour un certain nombre d'élèves difficiles à déterminer, il manquera des notes, ce qui veut dire pas de résultat du bac publié vendredi matin comme initialement prévu. Demain soir, en Assemblée Générale, les grévistes décideront de la suite du mouvement. Plusieurs possibilités. Remettre les copies manquantes vendredi matin. Là, ça permettrait à l'Éducation nationale de publier des résultats du bac en fin de journée. Remettre les copies vendredi après-midi. Alors là, forcément, on n'est déjà plus dans les délais. Et possibilité encore, aller plus loin dans la grève. Le ministère reste pour l'instant sur l'idée de publier vendredi matin la grande majorité des résultats. Mais c'est l'incertitude pour les autres. Les correcteurs en colère veulent obtenir des concessions du ministre Blanquer. L'ouverture de négociations sur les réformes. Plus le bras de fer se poursuit, plus les risques de sanctions augmentent. Ceux qui se déclareront grévistes vendredi se verront compter également le samedi et le dimanche comme jour de grève avec retenue sur salaire. Et puis détenir les copies au-delà de la durée de correction qui leur était impartie peut être considéré comme une faute grave avec de possibles sanctions disciplinaires, avertissement, blâme, abaissement d'échelon.
Les précisions de Marie Guerrier pour RTL. Une plainte collective a été déposée par 85 personnes à Nantes.
Un jeune homme est toujours porté disparu depuis la fête de la musique. Des échauffourées avec les forces de l'ordre avaient éclaté quai Wilson. 14 personnes étaient tombées dans la Loire. Aujourd'hui, les associations qui accompagnent les événements de musique électronique ont décidé de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Nicolas Bobby.
Profondément choqué par la disparition de son ami, Alia s'est jointe à cette plainte collective.
J'ai porté plainte pour Steve, pour qu'il y ait justice pour lui, pour qu'on sache ce qui s'est passé. Parce que ça va faire 12 jours maintenant qu'on est laissé dans le flou. Je porte plainte aussi pour que ça s'arrête, que toutes ces violences, elles s'arrêtent. On veut plus se faire marcher dessus, on veut plus dire amen à tout. Ça va de bavure en bavure et il faut que ça se stoppe.
Les représentants de la scène techno ont rencontré le préfet. Aucune autorisation n'avait été demandée pour la free party. Le président de Mediason, Victor Lacroix, n'admet pas que l'État affirme ignorer que l'on jouait de la musique électronique depuis 20 ans en bord de Loire.
Le gros point de ne pas être au courant que depuis 20 ans, il y a des scènes qui s'installent. Je trouve que c'est totalement hypocrite et que c'est une façon de se protéger assez maladroitement.
Samuel Raymond est le coordinateur de Freeform.
On disperse pas une foule, même si c'est pour se protéger parce qu'on a pris une canette sur le coin du nez. On disperse pas une foule au bord d'une rivière à coups de grenade lacrymogène. Même un enfant serait ça.
Les amis de Steve ont déposé une banderole devant la préfecture où l'on peut lire « À jamais, dans nos cœurs ».
Nicolas Bobby, on sera donc dans 10 minutes avec l'avocate qui vient de déposer cette plainte collective. Édouard Philippe en Corse et un tête-à-tête avec les nationalistes.
Oui, c'est le temps fort de sa visite à Bastia. Jean-Guy Talamoni avait boudé une rencontre à Matignon. La dernière entrevue remonte à l'été dernier. Le Premier ministre était fermement décidé à déminer le terrain sur les sujets qui fâchent. Et après un entretien beaucoup plus long que prévu, Olivier Bost, on n'a pas le sentiment que les lignes ont franchement bougé.
Oui, Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse, et Gilles Simeoni, le président de la collectivité, ont résumé en quelques mots plus d'une heure de réunion avec le Premier ministre.
Nous avons décidé de faire une nouvelle tentative pour l'ouverture d'un dialogue fructueux entre la Corse et Paris. Disons qu'à l'heure où nous parlons, il n'y a rien de bien nouveau du côté de Paris. Nous attendons à présent, non pas tellement des paroles, mais des faits.
Nous attendrons la position du chef de l'État, puisque je pense que tout le monde a bien compris que, in fine, c'est sans doute lui qui donnera le la.
Une attente qui empêche les dossiers corses d'avancer. Concrètement, pour le quotidien des habitants de l'île, le gouvernement est accusé à demi-mot par Gilles Simeoni d'empêcher les nationalistes de gouverner.
La situation actuelle est incontestablement difficile, sans doute même dangereuse, à partir du moment où il y a une prise en compte insuffisante du fait démocratique, ça crée une frustration, ça crée une tension.
Une tension que n'a pas fait baisser pour l'instant Édouard Philippe dans ses premières heures sur l'île.
Olivier Bost en direct de Bastia pour RTL. Il a préféré renoncer, l'ex-secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi, qui avait quitté le gouvernement pour se présenter au municipal à Paris sous l'étiquette LREM, retire sa candidature. Il rejoint le mathématicien Cédric Villani. D'après un récent sondage BVA, ce dernier et Benjamin Griveaux feraient exactement le même score au premier tour, 25% à 4 points devant Anne Hidalgo.
Allez, on marque une pause et dans un instant, de la prison ferme, mais une peine allégée en appel pour l'homme qui avait maltraité une pensionnaire quasi centenaire dans un EHPAD.
18h09, RTL Soir. 18h11, RTL Soir avec Vincent Parisot et la suite du journal de Christelle Rebière.
Une vieille dame de 98 ans, giflée, insultée, violentée à coups de pied. Vous n'avez sans doute pas oublié ces images qui avaient été tournées dans un EHPAD d'Arcueil dans le Val-de-Marne.
Son agresseur, un aide-soignant, avait été condamné à 5 ans de prison ferme, le maximum. Sa peine vient d'être réduite en appel à Créteil. 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Et cela désespère la fille de la victime, Claude.
Moi, c'est la déception. C'est pas assez cher payé, ce qu'il a fait sur une personne âgée de 98 ans à l'époque. J'espère qu'il y pensera souvent. Ça va lui faire peu de temps en prison, en fin de compte, parce que maman est handicapée. Hier matin, je regardais les vidéos encore. C'était d'une telle violence, avec une telle décontraction, que c'est impensable d'agir comme ça. Il était conscient de ce qu'il faisait. Quand il lui donnait les gifles, il la battait de toutes ses forces sur son visage. Quand il la tirait par les cheveux pour l'asseoir alors qu'elle avait le fémur cassé. Après, il l'a jetée sur le lit alors que maman disait « Pitié, pas mes jambes, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux jambes ». Quand il l'a jetée sur le lit, c'est le visage de la terreur que maman avait. C'était vraiment la panique, elle se demandait, parce qu'elle avait déjà pris des coups, ça fait plus d'un an qu'elle nous le disait.
Voilà, Claude, la fille de cette vieille dame, jointe par Alice Moreno pour RTL. C'est donc un ancien présentateur du journal télévisé italien qui a pris la présidence du Parlement européen.
Étonnant parcours que celui de David Sassoli, 63 ans, bien connu des téléspectateurs de la RAI. Il était le candidat des sociodémocrates, la deuxième famille des eurodéputés, et il a donc été élu au deuxième tour de scrutin. 10 ans, Yannick Holland, 10 ans qu'il flirtait avec la politique.
David Sassoli avait du mal à cacher son émotion. Tout à l'heure, juste après son élection, il s'installait dans le siège du président du Parlement européen face à la presse.
Pour moi, c'est vraiment une journée très particulière. Il y a peu de temps, j'étais journaliste. Je connais votre travail.
À 63 ans, cet ancien journaliste n'est pas un inconnu. C'est une figure familière pour des millions d'Italiens. C'était le présentateur vedette du journal de 20h sur la RAI, la chaîne publique italienne, dans les années 2000. L'apogée d'une carrière qu'il avait commencé comme correspondant local dans la presse toscane. Après 15 ans de journalisme télé, il décide de se lancer en politique en 2009 contre Berlusconi. Avec le Parti démocrate de centre-gauche, il est élu triomphalement à Strasbourg. Il tente en 2012 de se présenter au municipal à Rome, mais il est battu. Il se concentre alors sur sa carrière européenne. Il devient vice-président du Parlement en 2014. Parallèlement, il continue de collaborer de temps en temps avec quelques journaux et magazines. Tout à l'heure, devant ses anciens collègues en salle de presse, il s'est engagé à tout tenter pour mieux faire connaître l'Europe, rappeler ce qu'elle réalise au quotidien pour les citoyens. Une ambition autant politique que journalistique.
Yannick Holland pour RTL.
Réunion en urgence tout à l'heure du Conseil des Nations Unies sur la Libye. 44 migrants ont été tués dans une frappe aérienne contre un centre de détention près de Tripoli. L'Union européenne a condamné cet acte. La France aussi. L'ONU évoque un possible crime de guerre.
Et puis Donald Trump s'offre un show à la française.
Oui, il avait adoré, on s'en souvient, le défilé du 14 juillet à Paris auquel il avait assisté il y a 2 ans. Alors demain, jour de fête nationale américaine, il s'offre une grande parade inédite à Washington, à la manière d'eux. Sauf qu'un président en majesté, Philippe Corbet, c'est pas vraiment dans la culture américaine.
Ah non, les troupes qui défilent devant le président, tel un monarque, ce n'est vraiment pas la tradition de l'armée ici, surtout le jour de l'indépendance. Depuis 2 ans, le président essaye en vain d'organiser la même chose. Il a dû affronter de nombreuses oppositions, y compris chez les hauts gradés du Pentagone, car les parades militaires ici sont réservées aux victoires, comme à la fin de la première guerre du Golfe en 91. Même des soutiens du président ont tenté de l'en dissuader en lui expliquant que la plus grande puissance militaire du monde n'a pas besoin de montrer les muscles comme l'Iran, la Russie ou la Corée du Nord. Et quand on cite l'exemple de la France, des opposants à Trump lui reprochent d'être un Napoléon en devenir. Donc Trump n'aura pas son défilé, les chaussées de Washington n'y résisteraient pas selon la mairie, mais des tanks sont bien arrivés la nuit dernière près de l'esplanade au centre de la ville où le président va donc prononcer un discours. Il y aura un défilé aérien, même Hermes qui va survoler l'esplanade. Le coût de l'opération fait polémique, 2,5 millions de dollars qui devaient servir aux parcs nationaux. Or, les places de choix vont être réservées aux donateurs du Parti républicain.
Philippe Corbet, qui était en direct, le correspondant d'RTL aux États-Unis.
Les Américaines se sont qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football hier devant 6 200 000 téléspectateurs ce soir, Pays-Bas-Suède, dans l'autre demi-finale à 21h et toujours à Lyon.
Merci Christelle, vous revenez à 18h30.
À tout à l'heure.
Rendez-vous est pris. Et maintenant les clés pour bien comprendre l'actualité.